Alors, bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce 7e épisode du podcast pour l'actu.ca. Je suis tout seul aujourd'hui. Mon nom, c'est DJ Map Music et mon cher collaborateur MMO n'est pas là aujourd'hui. C'est pas plus grave que ça. Ça peut arriver une fois de temps en temps. C'est vraiment pas plus grave. Tout simplement, on va sûrement l'avoir la semaine prochaine ou dans quelques autres épisodes. C'est pas plus grave. Je vous avais averti dès le début également que ça peut arriver qu'on puisse faire des podcasts tout seul. Et cette semaine, c'est un podcast qui est relativement light. C'est un podcast qui va prendre après, je vous dirais, peut-être une demi-heure. Pourquoi que je vous dis ça? C'est qu'on a eu un problème technique et on est obligé de le réenregistrer. C'est qu'on salue le monde qui sont dans le chat, qui réécoute le podcast pour une deuxième fois, littéralement. C'est pas plus grave, c'est la magie du direct qui peut arriver à certains petits problèmes techniques et tout simplement, on refait. J'aime mieux refaire littéralement la prise. C'est qu'aujourd'hui, on va parler de Baby Shape, Baby Shake, Baby Shark, on va le prononcer correctement. Mais Baby Shark qui est devenue la vidéo virale de YouTube et la vidéo la plus vue de l'histoire de YouTube à partir de maintenant, je vous dirais, à partir de cette semaine. C'est pas la première vidéo à atteindre 1 milliard de vues, mais elle a atteint maintenant 7 milliards de vues, Baby Shark. Shark, excusez-moi, j'ai tout en de la misère à le prononcer. C'est-à-dire bébé requin, on va dire, en français. C'est que cette vidéo-là a détrôné Despacito, qui est l'ancien record de YouTube. Et maintenant, Baby Shark est maintenant la vidéo la plus vue de l'histoire de YouTube jusqu'à aujourd'hui. C'est une vidéo j'ai appris quelques trucs là-dessus, qui a été lancée en juin 2016, qui est un remixage d'une chanson américaine et qui a été produit en Corée du Sud. C'est que cette vidéo-là est une vidéo sud-coréenne. Et comme je vous dis, date de 2016, mais elle a tellement fait le buzz, on l'a tellement vu partout. Et si vous êtes parent dans la vie, vous l'avez forcément déjà entendu également. Je parle de parents de jeunes enfants. C'est sûr que si vous êtes parent d'ado, ça me surprendrait que vous l'auriez entendu. Mais vous l'avez forcément entendu si vous êtes parent de jeunes enfants. C'est devenu la vidéo la plus vue de l'histoire de YouTube à aujourd'hui, on va dire. Tout simplement, c'est avec Baby Shark. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. L'air va vous rester dans la tête et vous allez me détester. Vous allez me dire un gros merci. C'était juste une petite actu vite comme ça. On pourrait l'appeler l'actu express, comme on pourrait dire. Je vais essayer d'en trouver pour les prochains podcasts également. Mais on pourrait l'appeler l'actu express, on pourrait dire. Nouvelle sortie pour DJI, un nouveau drone de la part de DJI qui est relativement à l'air très intéressant. Au niveau des spécifications, au niveau de son autonomie, au niveau de sa légèreté. Bref, si vous cherchez un selfie qui va voler en entour de vous, qui va vous faire des photos aériennes de vous, qui va vous regarder en train de faire du sport, des choses comme ça, ça m'a l'air vraiment l'appareil photo idéal pour en faire. Parce que c'est vraiment ça que DJI vise. Ils visent pas un drone professionnel pour faire du montage, pour faire du cinéma, des affaires comme ça, des émissions de télé ou quoi que ce soit. Ils visent que ce soit le drone pour monsieur, madame, tout le monde. Premièrement, on est dans un drone de 249 grammes, un ultra léger comme on appelle, et relativement très intéressant au niveau des spécifications, vous allez voir. On parle de 31 minutes de temps de vol, c'est-à-dire, moi juste pour vous dire, à titre comparatif, j'ai déjà eu un drone DJI dans le passé, un Phantom 3, et j'avais 24 minutes de vol. Mais la batterie devait faire la taille de la grosseur de ce drone-là, littéralement. C'est que là, on est dans une batterie beaucoup plus petite qui a beaucoup plus d'autonomie que mon ancien drone. C'est ça qui est fou. C'est que là, on est à 31 minutes de temps de vol. Et laissez-moi vous le dire, là, quand vous avez un petit drone comme ça, 30 minutes, ça paraît peu, mais c'est entièrement suffisant. Et on va voir plus tard, il y a le Flying Combo qui contient 3 batteries qui peuvent être relativement très intéressants. 10 km de transmission vidéo. Sur mon Phantom 3 à l'époque, si je ne me trompe pas, c'était 2 km à mon souvenir. C'est qu'on est rendu à 10 km de transmission vidéo. C'est juste incroyable la technologie qui est embarquée à l'intérieur de tout ça. C'est juste fou. Évidemment, ça doit être 10 km. On doit avoir rien, je présume, alentour. On doit pas avoir de building. lignes des arbres, des montagnes, des choses comme ça. Ça doit être un univers relativement plat, un peu comme l'océan ou la mer ou quoi que ce soit. Des résistances au vent allant jusqu'au niveau 5. Vous allez voir un peu plus bas que le niveau 5. Ça peut résister à des vents relativement quand même pas pire, importants, on pourrait dire. Évidemment, enregistre les vidéos en ultra HD en 4K avec une image ultra claire et stabilisée également. Ça, on oublie de le dire, mais oui, la caméra est entièrement stabilisée sur ce genre d'appareil-là. Avec des modes intelligents et des quick shots, si vous allez voir ça un petit peu plus tard. C'est là que ça va être dur de le décrire au vocal. C'est pour ça que je vais vous inviter soit à aller voir sur le site de DJI, le DJI Mini 2, soit à regarder le live directement avec le support visuel. Ça risque d'être beaucoup plus intéressant. On voit le drone avec la construction intérieure du drone, c'est-à-dire avec le plastique, comme on pourrait dire, enlevé. La technologie qui embarque, on voit que la plus grosse partie du drone, c'est littéralement la batterie. Et dites-vous en affaire, ça pèse tout ça, non? Toute la caméra, les quatre moteurs, la batterie, tout ça, ça pèse uniquement 249 grammes. Il est tout petit, mais il est puissant et vraiment intéressant. 31 minutes de durée de vol, littéralement, comme on dit un peu plus tôt. C'est relativement très intéressant, ça aussi, comme je vous dis. Moi, j'avais 24 minutes à l'époque et j'aimais ça, 24 minutes. Ça fait que 31 minutes, c'est juste le best. Une demi-heure, là, je pense que vous avez le temps de vous écœurer, à mon avis, là. Après ça, le DJI Mini 2 résiste des vents allant de 29 à 38 km/h. C'est hallucinant, là. Pour un drone qui pèse seulement 249 grammes, je vous le dis encore, des vents de 29 à 38 km/h, là, c'est fou, là. Peut atteindre une altitude maximale de 4000 mètres. Encore une fois, à titre comparatif avec mon ancien drone, je l'envoyais à 100 mètres. J'avais de la misère à le voir et j'avais de la misère à l'entendre parce que ça fait du bruit, ces petits appareils-là. Et je vous le dis, là, à 100 mètres, j'étais pas à l'aise. Parce que, comme je vous dis, j'avais de la misère à le voir, j'avais de la misère à l'entendre. C'est que je me voirais même pas l'envoyer à 4000 mètres. Sincèrement, là, je me verrais même pas l'envoyer à 4000 mètres. C'est que 4000 mètres d'altitude, je trouve ça hard, là. Normalement, en plus, je pense qu'il y a des limitations. On peut pas dépasser 120 ou 150 mètres, là, en plus, là. C'est que je me verrais même pas m'envoyer jusque-là. Après ça, puis en plus, 4000 mètres, il y a des avions aussi qui passent dans le secteur, 4000 mètres, là. C'est que je me verrais pas l'envoyer à cette altitude-là, surtout à 249 grammes. 10 km de portée vidéo. Moi, sur mon ancien drone, c'était 2 km, pour vous dire. C'est que là, maintenant, on est à 10 km. C'est sûr que, comme je vous dis, faut pas qu'il y ait de bâtiments proches, des arbres, des affaires comme ça. Parce que le mien, je me rappelle, j'allais à 800 mètres avec, puis j'avais de la misère. La vidéo commençait à couper. C'est avec 10 km de portée vidéo, c'est bien beau, mais comme je vous dis, à mon avis, ça doit être dans un endroit très dégagé pour avoir cette portée-là. Mais quand même, ça veut dire qu'on est capable de faire 2 km facilement, à mon avis. C'est ça qui peut être vraiment intéressant sur ce type de matériel-là. Vous voyez que la télécommande aussi a changé. Les anciens modèles comme le Maverick, le téléphone était en bas de la télécommande, mais maintenant le téléphone est maintenant en haut de la télécommande. Et je trouve ça beaucoup plus adapté, beaucoup mieux comme télécommande. Enregistre en 4K, comme je vous ai dit. Et l'image, ma foi, on voit l'image actuellement, elle est splendide. Elle est ultra claire. Si c'est bel et bien une image tirée du drone, elle est ultra clair. Moi, je me rappelle, sur mon ancien drone, je voyais la vidéo faire des espèces de zigzags, des fois. C'est que à cause du rolling shutter de la caméra, ben tout simplement, des fois, je voyais des espèces de zigzags parce que même si la caméra est stabilisée et elle était sur des amortisseurs, le drone produisait trop de vibrations pour la caméra et des fois, ça faisait faire des zigzags avec le rolling shutter de la caméra. C'est que Gimbal stabilisé sur 3 axes et enregistre en 4K, c'est-à-dire on a les axes X, Y et Z pour la caméra. C'est vraiment intéressant pour ça. C'est que en plus, on a un zoom numérique, par exemple, mais un zoom numérique qui va jusqu'à x4. C'est que c'est relativement très intéressant. Le quick shot, c'est malade comme effet. C'est un effet de zoom et de ralenti en même temps. quand le drone s'en va, s'éloigne, ou en fait, c'est vraiment intéressant comme ce qu'on est capable de faire. On a d'autres technologies aussi, on a du ultra grand angle qui peut se faire, on a du large, mais on a de la vision à 180 degrés, on a même des visions en bas de sphère. Ça, c'est juste hallucinant. On vient littéralement dans le même principe qu'une caméra 360, mais ça doit prendre un peu de temps quand même relativement à setuper, je vous dirais. Mais un ultra grand angle de 180 degrés, ça fait des belles vidéos et des belles photos, comme on pourrait dire. Puis là, on voit les petites différences avec le classique et le ordinaire, on pourrait dire la vision d'une image ordinaire, la vision avec la caméra du drone, ça peut être relativement intéressant, peut-être une petite idée de cadeau de Noël. Puis comme je vous dis, c'est full automatisé, ces drones-là, hein. Ceux qui connaissent pas du tout ces drones-là, là, c'est full automatique, c'est-à-dire on appuie sur un bouton, le drone décolle, il se met à la hauteur souvent de nos yeux et il reste là en place parce qu'il y a un GPS à l'intérieur, tout ça. C'est que le drone est full automatisé, tout ça. Il y a beaucoup d'assistance par rapport à ça. Puis, il ne vous permet pas, évidemment, vu qu'il est traqué par GPS, il ne vous permet pas d'aller dans des zones interdites comme proche des aéroports ou les bases militaires ou des choses comme ça. On ne peut pas s'approcher de ces endroits-là, c'est normal. Et il y a également des endroits qu'on ne peut pas faire voler ça. Comme en ville, souvent, c'est beaucoup plus difficile. Mais en campagne, ça peut être relativement très intéressant. C'est avec, on voit que l'importation de vidéos a l'air facile aussi. On peut transmettre ça directement sur le cell ou quoi que ce soit. On peut voir que ici découvrir la nouvelle architecture 500 mètres, il nous propose une montre d'autres technologies aussi, tout ça. C'est que ça, c'est le drone tout simplement 249 grammes. C'est hallucinant. J'ai eu la chance de peser la première version qui faisait 249 grammes aussi, et c'est vraiment ultra léger. C'est que pour ceux qui s'intéressent, sur le site de DJI, on a les prix en US directement. C'est avec qu'on parle de 419 $ US pour la version 2 et la version Flying Combo. Le Flying Combo, c'est un combo de plusieurs accessoires. On a beaucoup plus d'accessoires pour un prix raisonnable également. Pour un combo, ça le dit, c'est un prix de combo. C'est-à-dire, on parle de 559 $. Dans le drone normal, dans le fond, on a évidemment l'appareil, la télécommande, la batterie, une paire d'hélices, les connecteurs, les protections de la nacelle, une paire de joysticks également, des vis de rechange et un tournevis. Et dans le Flying Combo, on a tout ça. En plus, dans le fond, d'avoir deux autres batteries, c'est qu'on a un total de trois batteries, deux autres paires d'hélices, c'est-à-dire on a trois paires d'hélices en tout et partout. Comme je vous ai dit, les protections de nacelle, les câbles, les joysticks, les vis qu'on a beaucoup plus, on a beaucoup plus de vis. On a un attache-hélice, on a une station de recharge bidirectionnelle, on a un adapteur secteur USB 18 watts et on a un sac de transport. C'est que le Flying Combo vient relativement très intéressant. Sincèrement, là, pour 130$ de plus, là, ça a l'air terriblement intéressant. C'est que le temps des fêtes arrive, ça pourrait être une bonne idée de cadeau pour quelqu'un qui drippe techno et qui adore faire de la photo en même temps et de la vidéo. Ça veut qu'à mon avis, ça pourrait être relativement intéressant. Maintenant, prochaine actualité qu'on peut parler ensemble, tout simplement, Raspberry Pi nous lance un nouvel ordinateur basé sur leur ancien ordinateur. Qu'est-ce qu'on veut dire là? C'est que Raspberry Pi, pour ceux qui connaissent pas, c'est des micro-contrôleurs, des micro-ordinateurs, souvent la grosseur d'une carte de crédit, qui a beaucoup de connecteurs après, qui est relativement intéressant, et on peut faire beaucoup de trucs avec ce genre d'appareil-là. On peut tout simplement soit faire des consoles de jeux, littéralement, et ça va répliquer des anciennes consoles de jeux, exemple des NES, des PS1, même des PS2, PS3 pour certains modèles. On peut également simuler des Nintendo 64. Bref, j'ai vu énormément de monde faire des bornes d'arcade avec ça. Faire des arcades, littéralement, ça peut être relativement intéressant. Tu peux contrôler un imprimante 3D, comme on me dit dans le chat également. Ça peut être une belle, ça peut être le fun pour mettre sur une télé également, pour faire une espèce d'Android TV également. Bref, on peut faire plein de trucs avec un Raspberry Pi. Et Raspberry ont sorti le Raspberry Pi 400. Dans le fond, c'est qu'au lieu de l'avoir uniquement sous forme de petite carte, la grosseur d'une carte de crédit encore une fois, ben on l'a étalé et on l'a inséré dans un clavier. Raspberry nous avait déjà présenté un clavier qui s'appelait le Raspberry 4, si je ne me trompe pas. C'est un clavier en USB que Raspberry proposait tout simplement, pas cher. Et ils ont pris ce clavier-là et ont mis leur Raspberry Pi directement dedans avec plusieurs connexions. Et je pense que j'ai fait le calcul, je pense qu'on perd juste un port USB en tout et partout. Je trouve que ça vaut la peine parce qu'on a le clavier intégré, ça que je peux comprendre qu'on perd un port USB, sincèrement, là. Ça me ferait vraiment pas. Je serais vraiment pas déçu d'avoir de perdre un seul connecteur. On parle de 139$ canadiens pour ce produit-là. Et vous allez voir qu'au niveau des fonctionnalités du Raspberry Pi, au niveau de la connectivité, au niveau de la technologie embarquée, c'est vraiment intéressant. On parle d'un processeur ARM en quad-core 1.8 GHz. Ça veut dire que c'est relativement un processeur ARM relativement intéressant, quand même puissant. 4 GB de LPDDR4, ça, on parle, c'est de la RAM actuelle, ça, de la LGDDR4, là, en 3200 en plus. Ça veut dire 4 GB de RAM pour ce qui est l'intérieur. Il y a un modèle aussi, si je ne me trompe pas, que Raspberry font en modèle 8 GB, mais c'est uniquement la carte, c'est pas le modèle clavier, comme on pourrait dire. Ensuite, ça inclut du Wi-Fi double bande en 2.4 et en 5 GHz. Qui supporte le BGNAC. C'est des noms de Wi-Fi pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, supporte le Bluetooth 5.0 également. Un port Gigabyte Internet également. Et ça me surprendrait que ce modèle-là soit compatible pour avoir le HAT. Dans le fond, Raspberry Pi font HAT, dans le fond, pour être alimenté en RJ45 avec du PoE. Ça me surprendrait que ce modèle-là soit compatible parce que le HAT était vraiment, vraiment compatible pour, exemple, le Raspberry Pi 4. Là. C'est que le 400 risque de pas l'être compatible, malheureusement, mais c'est pas plus grave que ça, encore là, une fois. Un port horizontal de 40 pins d'un GPIO, ça va être pratique pour le monde, justement, qui utilise ça avec des imprimantes 3D ou qui font de la programmation vraiment plus poussée avec ça, qui vont faire des contrôles directement. C'est un port, ce qu'on peut dire, exemple, la pin 40, ou la pin 10 ou la pin 20. Quand ils reçoivent du courant, ça fait telle action dans le Raspberry ou quoi que ce soit. On peut s'en servir pour naviguer. On peut s'en servir aussi parce que souvent, ce genre de petit appareil-là, on peut mettre des petits ventilateurs, des choses comme ça pour alimenter un petit ventilateur pour aider à refroidir mieux le processeur, des choses comme ça. C'est que le GPIO, c'est relativement intéressant aussi à avoir parce que c'est comme des connexions externes qu'on peut faire beaucoup de choses, qu'on peut programmer littéralement. Ensuite, en multimédia, il supporte le H265, c'est-à-dire 4K à 60 FPS et il supporte le H264 évidemment aussi en 1080p 60 FPS et 1080p 30 FPS. Il supporte le OpenGL également 3.0. Son système d'exploitation, c'est une carte micro SD, un stockage micro SD, puis c'est relativement intéressant. On va le voir un petit peu plus tôt, qu'est-ce que ça comprend le kit à 135$. On a 78 ou 79 touches de clavier. Ça doit être dépendamment la version, la langue du clavier, là. Il y a une touche qui change. Ça veut qu'on a un clavier relativement de 79 touches, on va dire. C'est alimenté en USB en 5 volts. Directement avec un port USB type C et je voulais juste vous mentionner que ça peut également être opéré, on pourrait dire fonctionner entre 0 degré et 50 degrés Celsius. Et le kit à 139$ pour juste vous dire qu'est-ce que ça comprend. Évidemment, ça comprend l'appareil, le Raspberry Pi 400, c'est son nom, qui est un clavier avec un ordinateur intégré et qui comporte également 4 GB de RAM. Et on a une carte micro SD de 16 GB qui est compris avec pour le système d'exploitation. Le Raspberry Pi Power Supply également, c'est-à-dire le Power Supply de Raspberry qui fournissent également avec. La souris de Raspberry également qui peut être relativement intéressant. Et un câble HDMI avec un guide d'utilisation en anglais. C'est comme on peut le voir sur l'image ici, on a le câble HDMI, le guide d'utilisation, la carte micro SD, le Power Supply. Et évidemment, la souris et le Pi 400. C'est que pour 135$ canadiens, on a littéralement un ordinateur complet. Et ça serait le genre de choses que je vais sûrement peut-être regarder pour m'acheter, pour installer à côté de moi, brancher sur mes deux moniteurs que j'ai là qui servent à rien actuellement, pour justement faire des petites choses comme juste voir le chat Twitch ou des choses comme ça. Tu peux acheter juste le clavier et acheter également juste l'ordinateur, effectivement, comme le chat dit. Oui, ça va sûrement revenir moins cher, mais là, on parle que c'est la version 4 GB. Parce que là, dans les Raspberry Pi, il y a la version 2 GB, la version 4 GB et la version 8 GB. C'est juste ça qu'il faut faire attention. C'est avec le prix d'un Raspberry Pi 4 GB, à mon souvenir, joue pas loin de ça, 100$. Je vous dirais, après ça, on rajoute un clavier puis tout ça. C'est que 134$, je trouve que c'est très raisonnable comme prix pour, en plus, tout ce que ça comprend. La carte micro SD, le power supply, le livre d'instruction, le câble HDMI. Je trouve que c'est relativement très raisonnable comme prix. Et on le dit également, ça ressemble à un ordinateur pour enfants, mais c'est un peu le but également. C'est de faire un ordinateur pour enfants qui est relativement très abordable, qui est facile à utiliser justement pour les enfants, qui apprend la programmation, qui nous permet d'avoir un ordinateur qui est relativement intéressant et qu'on peut faire plusieurs choses. C'est pas un ordinateur briqué, c'est pas un ordinateur tout seul dans son coin. C'est vraiment quelque chose de open, on pourrait dire. C'est quelque chose de ouvert. C'est que c'est ça qui peut être relativement intéressant pour ce Raspberry Pi-là 400. Et c'est ce que Raspberry ont voulu faire également pour tout simplement, parce que c'est un lien avec la pandémie, en fait, ils ont voulu tout simplement offrir un ordinateur vraiment ultra accessible autant à des enfants qu'à des adolescents, qu'à des adultes, pour faire du léger travail, pour faire des conférences Zoom, tu sais. Exemple, t'as un enfant, il est obligé de tout simplement faire un devoir pour l'école, puis il faut qu'il le fasse sur l'ordinateur. T'as pas énormément un gros budget pour un ordinateur. Tant qu'à acheter une vieille ordinateur qui marche so-so, ben on peut acheter un ordinateur dans ce type-là et brancher ça sur la télévision. Est-ce que c'est protégé pour les virus et des choses comme ça? C'est basé sur un principe de Linux. Le système d'exploitation, si je me trompe pas, c'est avec le système d'exploitation de Raspberry, mais tu peux choisir ton propre système d'exploitation que tu mets dessus. Tu peux choisir de mettre Windows si ça te tente. Tu peux mettre Linux dessus. Tu peux mettre des versions ultra légères de Linux. Tu peux mettre le système de Raspberry, comme j'ai mentionné. Tu peux même installer Android si ça te tente. C'est que dépendamment de qu'est-ce que tu veux faire avec l'ordinateur, c'est comme ça, je vous dis, c'est vraiment open. Tu peux t'en servir pour jouer à des jeux vidéo, des systèmes de surveillance également, brancher des caméras dessus, tout ça, comme on me dit dans le chat. C'est vraiment open, puis sincèrement, pour le prix, 134$. C'est relativement très intéressant. Sur un autre sujet, Ubuntu, ça serait parfait dessus. Ben, Ubuntu, c'est Linux, en fait, pour le chat qui nous dit ça. Sur un autre sujet, en parlant toujours de processeur ARM et en parlant de hors de prix cette fois-ci, c'est qu'Apple nous propose tout simplement de dévoiler encore des nouveautés. Ça veut que je dis encore parce qu'oubliez pas que récemment dans les podcasts, si vous les suivez, nous avons parlé de la keynote Apple avec l'iPhone 12 et un peu plus avant également, nous avons parlé de la keynote de septembre avec le iPad Air et la nouvelle version du iPad 2020 et le nouveau iPad Air. Dans la dernière conférence Apple, on a présenté l'iPhone 12. Et maintenant, nous allons pouvoir parler également d'ordinateurs portables. Je vois qu'il y en a qui disent « Je veux un MacBook Pro 16 pouces. » C'est une révolution. Oui, je vois ça comme une révolution aussi parce que là, on va intégrer... C'est toutes des suppositions qu'on propose, mais Apple nous a déjà teasé un peu avec ça cet été avec la conférence des développeurs en disant qu'ils vont tout simplement mettre en place des ordinateurs Apple avec des processeurs ARM. C'est-à-dire qu'Apple veut abandonner Intel pour mettre des processeurs de technologie ARM à l'intérieur, dont leur nouveau processeur, sûrement le A14, gravé en 5 nanomètres. Je vous rappelle qu'actuellement, c'est le seul processeur commercialisé grand public, on va dire, à être gravé en 5 nanomètres actuellement sur le marché. Et c'est disponible dans l'iPhone 12, dans le iPad Air, mais il va sûrement être disponible également dans le prochain MacBook. MacBook, on ne sait pas ça va être quel ordinateur qu'ils vont présenter. Ça peut être un Mac Mini, ça peut être un iMac, ça peut être un MacBook Pro, ça peut être un MacBook, ça peut être un MacBook Air. C'est qu'on ne sait pas quelle version d'ordinateur qu'ils vont nous présenter. C'est là qu'on va voir qu'est-ce qu'Apple veut nous présenter littéralement le 10 novembre. C'est avec conférence de chez Apple le 10 novembre à 10h pour la côte ouest, à 13h, excusez-moi, pour la côte est. Et pour ce qui est de l'Europe, la France, ça va être à 19h. Ça veut que surveillez ça le 10 novembre. Ils vont sûrement nous présenter également la nouvelle version de Mac OS, la version 11. qui s'appelle Big Sure, qui est en test, qui est en bêta test depuis cet été. C'est avec directement, on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous présenter là. Encore là, on veut rien confirmer, mais tu sais, on parle de processeurs ARM. Les processeurs ARM, c'est les processeurs, comme je vous ai dit, qu'on retrouve dans les téléphones. C'est-à-dire, on parle sûrement d'une meilleure autonomie de consommation de batterie et plus de performance et beaucoup plus petit également. C'est ça qu'on va voir si c'est relativement intéressant là-dessus. Qu'est-ce qui... On pourrait forcément voir un ordinateur, un Mac avec 20 heures d'autonomie en mode travail, qui est la même performance qu'un iPhone 12, qui a 8 GB de RAM, puis qui est parfait pour faire de la programmation, du traitement de texte, des choses comme ça, de la navigation web, des gens, même peut-être même des petits jeux light, des affaires comme ça. C'est qu'Apple vont nous présenter ça le 10 novembre prochain. On va attendre ça et on va voir ça, à quoi ça va ressembler. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler. Et évidemment, dans le prochain podcast, on va vous débriefer de quoi ils ont parlé aussi. C'est que notez ça, le 10 novembre, c'est cette semaine, à 13h pour les Québécois et 19h pour les Européens qui écouteront ce live qui va être disponible sur Internet, évidemment. Ensuite, une nouvelle un peu triste. Évidemment, Ubisoft reporte la sortie des jeux Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine. Ubisoft ont annoncé la semaine passée la sortie de Watch Dogs Legion, qui était une nouvelle version du jeu Watch Dogs, simplement qui a été lancé il y a quelques années, et vont certainement également cette semaine sortir la nouvelle version de Assassin's Creed Valhalla, que ça se prononce Valhalla, si je me trompe pas. C'est-à-dire, c'est censé sortir le 10 novembre prochain pour le nouveau Assassin's Creed. Mais malheureusement, le nouveau Far Cry 6 et le nouveau Rainbow Six Quarantine sont retardés et pour 2021 et 2022 même pour le pire. C'est que le Far Cry 6, c'est reporté pour avril 2021 et Rainbow Six pour mars 2022. C'est que là, on est loin là dans les dates. Mais évidemment, c'est les studios canadiens qui nous développent ces deux jeux-là. Pour ce qui est de Far Cry 6, si je me trompe pas, c'est le studio de Toronto. Et pour ce qui est de Rainbow Six, c'est le studio de Montréal qui nous développe ces nouveaux jeux Ubisoft-là. Et qui dit quarantaine, évidemment, quand on parle de jeux vidéo, dit également le confinement actuel. Et oui, c'est une des raisons pourquoi que les jeux sont aussi retardés. C'est à cause du confinement. Oui, on travaille sur les jeux en télétravail à la maison, des choses comme ça. Mais ils doivent... qu'ils me disent, ils doivent finaliser le jeu. C'est-à-dire, ils doivent faire un polissage global, comme ils appellent des jeux. C'est ça qui arrive, c'est que le jeu est relativement prêt à ce qu'ils nous disent, mais ils doivent le fignoler, ils doivent le polir, ils doivent mettre le jeu beaucoup plus intéressant, ils doivent corriger toutes les bugs également. Et c'est des choses qui sont plus dures à faire en télétravail. Souvent, on n'a pas la même performance de machines sur quoi qu'on travaille les jeux à la maison qu'au travail. Des fois, c'est le contraire. Des fois, on a des ordinateurs plus puissants à la maison, mais des fois, c'est le contraire aussi. On a des ordinateurs moins puissants à la maison. C'est avec des fois, on doit travailler les jeux d'une autre manière. Et comme je vous dis, travailler un jeu, c'est beaucoup de coding, c'est beaucoup de développement, des affaires comme ça, mais c'est pas que on doit faire des tests par rapport au jeu, des choses comme ça. C'est que les jeux, malheureusement, sont retardés pour, on parle de avril 2021 et mars 2022 pour les jeux. C'est là qu'on voit ici Far Cry 6, effectivement pour Toronto, et Rainbow Six pour le studio de Montréal. C'est que les Far Cry 6 et les Rainbow Six, ça fait beaucoup de six, sont reportés malheureusement. C'est la petite mauvaise nouvelle. On vous rappelait la semaine passée qu'on avait... ils retardaient le jeu Cyberpunk 2077. C'est un autre jeu qui se rajoute dans cette volée-là. C'est que c'est vraiment triste, mais malheureusement, on va devoir attendre pour avoir des jeux relativement intéressant, comme on dit également. C'est ce qui met un peu fin à ce podcast-ci. Je vous rappelle que ce podcast, pour ceux qui ne le savaient pas, je ne l'ai pas dit au début du live, mais je vais vous le dire tout simplement là, actuellement. Le podcast a été tourné avec la nouvelle technologie de NVIDIA. Non, ce n'est pas commandité par NVIDIA. Je faisais juste la tester, évidemment. Vous voyez que quand je bouge la tête, ma tête reste centrée et suit tout simplement le mouvement pour les personnes qui nous regardent directement sur le live. Ben, c'est une nouvelle technologie de NVIDIA. Je vais vous en parler tout simplement parce que je trouve ça vraiment intéressant. NVIDIA ont lancé le NVIDIA Broadcast, qui est un système qui fonctionne avec les cartes RTX Moi, personnellement, j'ai une carte RTX, une RTX 2060, super de chez Gigabyte. C'est que moi, j'ai sa carte-là, puis je voyais que Nvidia développait des trucs comme le RTX Voice, que je trouvais intéressant. Si vous avez jamais entendu un test de RTX Voice, tapez RTX Voice dans YouTube, vous allez être bluffé. Vous voyez le monde littéralement parler dans leur micro, puis on les entend quand même relativement bien. Et avoir un aspirateur à côté en train de fonctionner et on n'entend pas du tout l'aspirateur. Ben, c'est quoi qui fait ça? C'est justement l'intelligence artificielle reliée au CUDA core de la carte, dans le fond, qui fait cette technologie-là. Et le RTX Voice a été implanté à un nouveau logiciel qui s'appelle Broadcast. Et on a une technologie de webcam également implémentée à ça. C'est qu'au lieu de juste avoir de la voix, ben, on a également une webcam. Mais comme je vous dis, je ne suis pas commandité par Nvidia ou quoi que ce soit. Je ne suis pas payé par eux. C'est que je dis vraiment mon point de vue. Et le RTX Voice, moi, j'ai rencontré beaucoup de problèmes dans mes premiers podcasts. Et ça coupait trop les mots ou quoi que ce soit. Ou même en jouant aux jeux vidéo un peu plus tôt aujourd'hui, j'avais des problèmes encore avec le RTX Voice. Avec, je l'ai désactivé. Ça se désactive. Et j'ai gardé uniquement la webcam. C'est ça qui est quand même le fun avec ça. C'est que, justement, la webcam, soit je peux choisir un mode zoom et ça traque mon visage comme vous voyez actuellement, soit je peux mettre mon arrière-plan flou, c'est-à-dire que ça met totalement tout mon arrière-plan flou, c'est un effet bokeh comme on appelle dans le monde de la photographie, ou soit je peux même littéralement mettre un green screen, c'est-à-dire que même si j'ai pas de green screen derrière moi, la webcam va me découper, c'est le logiciel RTX qui fait ça, et j'ai un green screen naturel derrière moi. Mais évidemment, comme je vous dis, c'est une technologie d'intelligence artificielle. Moi, quand je l'ai testé, le green screen, il détectait mal mon micro. C'est-à-dire qu'il faisait un green screen par-dessus mon micro et me détectait moi uniquement là. C'est-à-dire que je trouvais ça cool, mais en même temps, quand vous avez un micro devant vous comme moi, j'ai le Rode Pod, le Pod Mic qui s'appelle, ben là, il mettait flou mon Rode Mic ou il me cachait mon Rode Mic, puis tu sais, ça faisait comme du glitch puis des affaires comme ça. J'aimais moins ça. Mais par exemple, l'effet de zoom, je l'adore, je l'apprécie et comme vous voyez, ça marche relativement très bien. C'est-à-dire que l'effet de zoom, je vais sûrement la garder. Et c'est vraiment une nouvelle technologie qui vient d'arriver dans le mode du streaming. Et je trouve ça cool, ces technologies-là, sans que ça soit tout le temps Elgato qui innove de l'autre côté en vendant des produits relativement très, 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 très chers, comme exemple un Stream Deck. C'est que c'est ce qui met fin à ce podcast numéro 7 pour l'actu.ca. Si vous voulez réécouter les anciens podcasts, si vous voulez voir plus d'informations concernant également avec le blog, vous vous rendez sur l'actu.ca/blog, l'actu.ca/podcast. Vous allez voir également notre setup qu'on utilise, nos animateurs qui collaborent avec nous, nos collaborations aussi qu'on fait actuellement, comme on est en collaboration avec maprod.co. Je le mentionne pas assez, mais je devrais plus le mentionner. Et également, tout simplement, on est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Radio Public. Bref, on est disponible partout, même peut-être sur Evo Games si un jour ça revient. Salutations à Starplou qui est dans le chat. Moi, je vous dis ciao, au revoir, à la prochaine. C'était DJ Map en direct de son studio pour l'actu.ca. À la prochaine!